VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Nous sommes le lundi 6 janvier 2020. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition Le Monde aujourd'hui. Au microphone avec vous pour cette matinale, je suis Irénée Armalombo en compagnie de
Anne Albertson pour vous présenter ce journal dont voici le sommaire.
Le chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah a appelé les alliés de l'Iran à chasser l'armée américaine du Moyen-Orient.
Au Venezuela, deux présidents pour un seul parlement, l'opposition dénonce un coup d'État.
Des élèves figure parmi les 14 personnes tuées samedi dans l'explosion d'un car dans le nord-ouest du Burkina Faso. Nous en parlerons dans ce journal.
Coup dur pour l'armée américaine au Kenya. Un militaire et deux sous-traitants du Pentagone ont été tués dans l'attaque d'une base militaire par les Chebabs.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Echo, mais d'abord le journal.
Au Burkina Faso, 7 élèves figurent parmi les 14 personnes tuées samedi dans l'explosion d'un car dans le nord-ouest du pays. Ce car avait emprunté une route interdite à la circulation en violation des consignes de sécurité, selon des déclarations gouvernementales dimanche. Des détails avec Nathalie Barge.
Trois cars transportant 160 passagers sont partis de Toeni pour rejoindre Tougan samedi matin. L'un des bus a sauté sur un engin explosif improvisé, selon le porte-parole du gouvernement Rémi Fulgence Dandjinou, faisant état également de 19 blessés, dont 3 graves. Selon le ministre de l'Éducation nationale, Stanislas Ouaro, les transporteurs n'ont pas respecté les consignes de sécurité données par les autorités qui avaient interdit d'emprunter cette route en raison des risques d'attaque. L'armée menait des opérations de sécurisation sur la route Toueni-Tougan, près de la frontière malienne, a-t-il déclaré dimanche à la télévision publique RTB. Le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention avait donné des consignes fermes pour que les cars ne bougent pas avant la fin de ces opérations, a-t-il précisé.
Au Sénégal, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, rendra visite ce jour dans l'après-midi aux membres du Front de Résistance Nationale, le FRN, qui rassemble une partie de l'opposition. C'est la dernière étape de sa tournée politique. Khalifa Sall a déjà rencontré Ousmane Sonko ce vendredi et l'ancien président Abdoulaye Wade fin décembre.
Côte d'Ivoire, l'ancien général de la rue, Charles Blé Goudé, demande au président Alassane Ouattara de réunir les principaux partis politiques du pays pour tenter de trouver une issue à la situation tendue qui prévaut à 10 mois de l'élection présidentielle. Pour les partis d'opposition, notamment le PDCI d'Henri Conan Bédié et le FPI de Laurent Gbagbo, c'est nécessaire, mais le pouvoir d'Abidjan jusque-là ne semble pas favorable.
Sale temps pour le pouvoir au Libéria. Le Conseil des Patriotes appelle à manifester ce lundi pour exiger la démission du président George Weah. Cette coalition d'organisations de la société civile reproche au chef de l'État de ne pas permettre au pays de sortir de la grave crise économique qu'il traverse.
Au Kenya, un militaire américain et deux sous-traitants du Pentagone ont été tués dans l'attaque hier d'une base militaire par les Chebabs près de l'île de Lamu, a annoncé le commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM. Le point avec Jean-Roger Bion.
Durant une attaque par les Chebabs, un groupe affilié à Al-Qaïda en Afrique de l'Est, un militaire américain et deux sous-traitants du ministère de la Défense ont été tués sur une base de la baie de Manda, a indiqué le commandement militaire américain pour l'Afrique. Deux autres employés du Pentagone ont été blessés. Dans un état stable, ils ont été évacués, ajoute AFRICOM dans un communiqué. Le porte-parole de l'armée kenyane, le colonel Paul Njuguna, a déclaré qu'il y avait eu une tentative à 5h30 de venir à bout de la sécurité sur la piste aérienne de Manda. La tentative de faire une brèche a été repoussée avec succès, a-t-il affirmé, disant que les corps de 4 terroristes ont été retrouvés. D'après un rapport de police interne, deux avions Cessna, deux hélicoptères américains et plusieurs véhicules américains ont été détruits.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le centre de Téhéran est noir demande ce lundi matin en hommage au général iranien Qassem Soleimani tué vendredi par une frappe américaine en Irak selon des témoins. L'armée américaine risque son deuxième retrait forcé d'Irak en une décennie après le vote hier du Parlement irakien qui réclame son expulsion du pays choqué par l'assassinat à Bagdad du puissant général iranien Qassem Soleimani. C'était à l'occasion d'une séance extraordinaire en présence du premier ministre démissionnaire Adel Abdel Mahdi. Le Parlement irakien a demandé au gouvernement de mettre fin à la présence des troupes étrangères dans le pays.
Quant au président Donald Trump, il a menacé hier l'Irak de très fortes sanctions si les troupes américaines étaient contraintes de quitter le pays après le vote du Parlement pour réclamer leur expulsion. S'il nous demande effectivement de partir, si nous le faisons, ne le faisons pas sur une base très amicale, nous leur imposerons des sanctions comme ils n'en ont jamais vu auparavant, a déclaré le président Trump à bord d'Air Force One de retour de Floride où il était en vacances. Elles feront apparaître les sanctions contre l'Iran comme presque faible, a-t-il ajouté.
L'opposition au président vénézuélien Nicolas Maduro a dénoncé dimanche un coup d'État parlementaire après que Luis Parra, un député de l'opposition rivale de Juan Guaido, se soit autoproclamé président du Parlement, poste auquel M. Guaido comptait être réélu. Les précisions avec Nathalie Barge.
En l'absence de Juan Guaido et de nombreux députés de l'opposition, empêchés d'assister au début de la séance par de longs contrôles policiers, Luis Parra a empoigné un mégaphone dans la cohue et s'est proclamé nouveau président de l'hémicycle. L'opposition fidèle à Juan Guaido a évoqué un coup d'État parlementaire. Luis Parra a été exclu du parti d'opposition Primero Justicia après avoir été accusé par un site d'information d'avoir reçu des pots de vin d'un entrepreneur colombien qui aurait trempé dans une affaire de corruption. Juan Guaido avait affirmé disposer des votes nécessaires pour être réélu à la tête du Parlement, contrôlé par l'opposition, et continuer ainsi à se prévaloir du statut de président par intérim. Il s'était proclamé président par intérim le 23 janvier pour contester la présidentielle de 2018 qui avait permis à Nicolas Maduro de rester au pouvoir.
Et les États-Unis ont félicité dimanche le chef de l'opposition, Juan Guaido, pour sa réélection à la tête du Parlement du Venezuela par des élus d'opposition. Je félicite Juan Guaido pour sa réélection en tant que président de l'Assemblée nationale vénézuélienne et condamne les efforts sans succès du chef de l'État chaviste, Nicolas Maduro, de nier la volonté de l'Assemblée nationale démocratiquement élue, a déclaré le secrétaire d'État Mike Pompeo. Monsieur Maduro, quant à lui, a reconnu aussi aussitôt le candidat rival, Luis Parra, se réjouissant de ce que Juan Guaido ait été évincé.
En Indonésie, un immeuble de 5 étages s'est en partie effondré ce jour à Jakarta, faisant au moins 8 blessés, rapportent des télévisions locales qui font état de personnes coincées à l'intérieur. On ignore dans l'immédiat si l'accident a fait des morts et s'il est lié ou non. Aux inondations qui ont fait plus de 60 morts la semaine dernière dans la région de la capitale indonésienne. Des images de chaînes de télévision montrent que la moitié du bâtiment environ s'est effondrée avec une bonne quantité de débris et de morceaux de béton sur la chaussée. L'immeuble se situe dans l'ouest de la capitale. Les secouristes sont à pied d'œuvre pour évacuer les blessés sur des civières.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Passons à présent à la Minute Éco avec Nanit Talami.
Au Ghana, la compagnie minière Azuma Resources négocie des accords de financement pour développer le projet de sa mine d'or Oua. L'an dernier, elle a reçu les autorisations environnementales nécessaires qui lui permettront de commencer les opérations sur le gisement Kunche Pekgong, l'usine de traitement ainsi qu'un puits satellite. Ce gisement abrite 517 000 onces d'or. La société pourrait être achetée par Ibaera Capital si ses actionnaires accepter l'offre d'achat avant le 17 janvier 2020. Le ministre angolais des télécommunications, José Carvalho da Rocha, a annoncé que le deuxième satellite national de télécommunications est construit à 50%, révèle l'agence Ecofin. L'équipement spatial devrait être achevé cette année avant d'être envoyé en orbite terrestre en 2022 après divers tests techniques. Le satellite est le fruit d'un protocole complémentaire au contrat de fabrication du satellite Angosat-1 humaines envoyées dans l'espace en décembre. Pour terminer, les prix des barils du pétrole ont monté jusqu'à 4% vendredi. Ils ont terminé en hausse de 3,5% pour le Brent à Londres et de 3,1% à New York pour le West Texas Intermediate, un grade de pétrole brut utilisé comme référence dans la tarification du pétrole. Du côté des valeurs, les titres des sociétés pétrolières ont fait partie des gagnantes de la semaine dernière.
La page sport, c'est avec Élisée Roupati. Élisée, bonjour.
Bonjour Eman et bonjour à tous.
Volleyball féminin pour commencer avec le tournoi de qualification olympique de la zone Afrique au Cameroun.
Oui, et sans surprise, le pays hôte et le Kenya démarrent par une victoire. Les Camerounaises n'ont pas fait de détails devant les Botswanaises sur 7-3-7-0, tandis que les Kenyans qui font figure de favoris ont battu l'Égypte 3-7-1 ce lundi. Deuxième journée et au programme Botswana-Kenya et Cameroun-Nigeria.
La lutte traditionnelle au Niger avec l'épilogue de la 41e édition du sabre national à Maradi, remporté par Ousmane Hassan.
Originaire de Tillabéri, il a dominé Tassi Oussani de Zende, déjà vainqueur du tournoi en 2018 dans une finale spectaculaire. Ousmane Hassan, âgé de 23 ans pour 100 kilos, est parvenu à chuter le baobab et favori Tassi Oussani, 2,08 m pour 118 kilos, en 4 minutes de combat.
Football à présent, Coupe d'Afrique des Nations 2021 et nouvelle sortie d'Ahmad Ahmad.
Oui, le président de la CAF a parlé de la probabilité de changer la date de la compétition. Il a encore ouvert la porte à un changement de calendrier pour le Malgache. Il n'est pas possible d'organiser cette CAN en juin-juillet en raison des conditions climatiques au Cameroun. Pour Ahmad Ahmad, la CAF doit vite prendre une décision sur la date.
Direction le Bénin avec la 12e journée de la Ligue 1.
Et Aïma est seul leader après avoir battu les Dragons de Lomé sur la marque de 4-2. Le club d'Adjara compte 23 points devant Esaü 20 points, battu à domicile par les Panthères de Djougou, score 2-1. Les Buffs du Borgou, classés 4e, ont fait match nul 0-0 contre l'AS Sonnet de Boïcon. Pour le reste, après deux défaites de suite, l'Union sportive de Sémé craqué renoue avec la victoire en allant battre 1-0 la Jeunesse athlétique de Cotonou. Et puis, Béké FC de Bébéréké a été accroché à domicile 1-1 par l'Association sportive du port autonome de Cotonou. Même score entre Énergie de la SB2E et Real Sport de Parakou.
Deuxième journée également en Tunisie et Monastir toujours leader.
Grâce à sa victoire en déplacement 2-0 à Ben Guédane, le club de Monastir totalise 28 points, 3 de plus que l'Espérance de Tunis classé 2e et vainqueur à Slimane 1-0. But inscrit par Anis Badri. Le match choc de cette 12e journée n'a connu ni vainqueur ni vaincu entre l'Étoile du Sahel et le club africain, score 1 but partout. 10e journée en Égypte et le National Al Ahly du Caire, solide leader avec 30 points, suite à sa victoire 3-1 face à Al Masr, son rival. Le Zamalek occupe la 3e place avec 21 points après avoir battu 3-2 le Sporting Club de Tanta. Et puis du basketball pour finir, la NBA et avec vous Eman, les résultats de la nuit.
En NBA ici aux États-Unis sur courant alternatif, les Lakers et les Clippers ont peiné pour venir à bout des mal classés Detroit et New York, contrairement à Miami toujours aussi intraitable à domicile aux dépens de Portland. Miami a battu Portland avec 122-111. Minnesota a pris le dessus sur Cleveland avec 118 points contre 103. Memphis a disposé le Phoenix 121-114. Enfin, Los Angeles a terrassé Detroit avec 106 points contre 99. Ce sera tout, Élisée. Merci.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Hey there, hello. VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Irénée Hermanon-Bon, nous passons à présent à nos dossiers du jour. Le président sénégalais Macky Sall a lancé samedi dernier la première édition des journées mensuelles de nettoyement avec comme objectif principal rendre le pays plus propre. Dans la capitale sénégalaise, les populations ont bien répondu à l'appel du Sept-Sétal nettoyage en Wolof pour des villes sans déchets. De Dakar, la correspondance de Seydina Abagay.
À Dakar et dans sa banlieue, des centaines de personnes sont sorties pour rendre les rues plus propres en écho à l'appel du chef de l'État. Pour Mohamed Abdoulatif Sy, les populations ne devaient même pas attendre cet appel du président de la République pour rendre leur cadre de vie plus sain.
C'est nous qui habitons ici, quoi. Donc, attendre le président pour qu'il fasse des discours pour qu'on commence à nettoyer, pour moi, ça vaut pas la peine, quoi.
Peut-être aussi que essayer de conscientiser les populations, les jeunes, vraiment de s'y mettre, parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est nous qui habitons ici et c'est nous qui devrons le faire.
Un message bien compris par les habitants de Amosis, dans cette cité de la banlieue dakaroise, le Cleaning Day a été instauré depuis longtemps, comme l'indique la présidente de l'association des femmes. Trouvée en train de balayer les rues en compagnie des jeunes de la localité, Elisabeth Ndiaye affirme que le nettoiement est garant de bien-être et de productivité.
Quand on est sale, on est la cible des microbes, donc des maladies. Et quand on est malade, on n'est pas productif. On n'a pas d'activité. Donc là, vraiment, je crois que la population va adhérer à ça. Les mesures qui vont être prises, peut-être que ça sera une sensibilisation. On ne doit pas cesser de sensibiliser parce qu'on dit que la répétition est pédagogique. Donc nous, on va continuer à sensibiliser en ce sens-là.
Pour que cette dynamique soit maintenue afin de garantir le succès des journées mensuelles de nettoyement, le vieux Bokoum, chef de quartier de Amon 6, conseille d'éviter la politisation de cette initiative citoyenne.
Que chaque résident reste dans sa propre cité pour exécuter le travail, pour éviter le côté foucolique. Parce que je pense que pour le désenfermement, l'environnement, pour le festival, je pense qu'on n'a pas besoin de la musique de faire du n'importe quoi. Vous avez vu, vous avez constaté même à Amos, il n'y a pas de musique. Et les gosses sont mobilisés, les vieux sont mobilisés, les femmes sont mobilisées.
Pour que les efforts des populations ne soient pas vains, certaines municipalités ont déjà instauré des comités de surveillance et de suivi. Momodou Baydissi, maire de la commune d'Ndiarem Limamoulaye, est haut conseiller des collectivités territoriales.
Nous, on a mis en place une équipe de superviseurs, comme on l'appelle. C'est une équipe de 6 jeunes qui ont pris service depuis le 2. Après le discours du président, et ils vont faire le tour de la commune quotidiennement, c'est leur job. Ils vont voir comment les choses se passent, quels sont les gens qui posent des trucs et n'importe quoi, et ils viennent nous rendre compte pour qu'on puisse prendre les mesures qu'il faut. De toutes les façons, on ne sera pas tendre, parce que le président, quand il dit, ah, c'est le président qui a parlé. Le président, c'est la voix la plus autoriste, la plus haute de ce pays-là. Donc quand le président parle, tout le monde doit s'y mettre.
Pour appuyer les municipalités et accompagner l'engouement et la mobilisation des populations, le chef de l'État a annoncé un grand prix du président de la République pour la propreté, pour des villes vertes, des villes avec zéro déchet. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Une journée spéciale de prière pour les nations. Le Gabon veut inspirer le reste du continent en pacifiant les peuples. Chrétiens et musulmans étaient en pleine exhortation hier à Libreville pour clamer leur indignation contre l'intolérance et la crise des valeurs morales de Libreville. Le point avec notre correspondant Ismaël Obiendé.
Le gymnase du quartier Petit Paris à Libreville n'a pas pu faire le plein de ses 5000 places, mais le rendez-vous de quelques centaines de fidèles chrétiens et musulmans de la capitale gabonaise a vécu. Derrière les sons et lumières de cette journée de prière interconfessionnelle, il y avait surtout le contenu des messages des différents guides religieux à découvrir sur le podium. Monseigneur Basile Véhengon, archevêque de Libreville.
En regardant la situation du monde, de notre pays, on constate un déferlement impressionnant
et les multiples manifestations sociales et politiques du mal. L'ordre social, on veut y appeler injustice. Comment trouver un chemin entre ces efforts opposés? C'est mettre à profit le patrimoine commun des valeurs morales.
Le mal va à l'encontre de la foi, a ajouté le responsable de l'Église catholique du Gabon, manifestement uni contre l'intolérance et les idées sources de division dans les sociétés africaines. Les responsables religieux du Gabon exhortent les croyants à s'accepter dans la différence. Ismaël Oseni Ossa, imam de la grande mosquée Hassan II de Libreville.
Si les différences de langue, de peau, de traits sont autant de signes de la puissance créatrice de Dieu et de sa sagesse, alors les différences entre nos intelligences et nos esprits, et les différences entre leurs produits sont également des signes et des preuves du Tout-Puissant.
Stéphanie Mbumba, membre du centre d'évangélisation de Béthanie, est venue à cette rencontre interconfessionnelle pour dire non, selon elle, à la crise morale et spirituelle de son pays qui fait aujourd'hui le lit du méchant.
Et si justement cet esprit méchant a pris de l'ampleur, c'est parce que l'Église à un moment a bougé de sa place,
a failli.
Parce que c'est l'Église qui est grande la vision de la parole de Dieu. C'est l'Église qui doit tirer le sonnet de l'âme.
Au terme de cette séance de prière, dite de l'unité, de la réconciliation et du pardon, les responsables des communautés chrétiennes et musulmanes du Gabon ont procédé à la signature d'un mémorandum de bonne conduite avec un engagement renouvelé de promouvoir la paix au Gabon en particulier et en Afrique de façon générale. Libreville, Ismaël Obianze pour VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En République démocratique du Congo, plus précisément dans le sud Kivu, plus de 5000 personnes liées aux activités agricoles et au développement en milieu rural ont pris part aux 12e journées champêtres tenues à Walungu, à 40 km de la ville de Bukavu. Environ 3000 producteurs et artisans qui prenaient part à ces assises sont venus de 5 territoires du sud Kivu. L'objectif de ce rassemblement, promouvoir la production locale, les précisions avec notre correspondant Ernest Mouero.
C'est un véritable rendez-vous d'y donner et d'y recevoir dans cette mini-foire agricole dénommée Journée Champêtre. Du 2 au 4 janvier, les délégations des agriculteurs, fermiers, artisans, micro-entrepreneurs y revenus du Sud Kivu ont exposé les fruits de leur labeur et échangé d'expériences en matière de production et adoption de meilleures pratiques en présentant leurs attentes vis-à-vis des décideurs. Passion Bagenda, secrétaire général d'ICAB.
Nous voulons soutenir la production locale. Et les Journées Champêtres, c'est une occasion pour nous de montrer à l'opinion que la production est possible dans le pays si le paysan met en œuvre les différentes techniques, approches de production que nous vulgarisons. Nous voulons que les paysans, au-delà de l'agriculture pour vivre, consommer, manger, que les paysans transforment, donnent de la valeur à leurs produits. Nous montrons aux autorités politiques, aux acteurs économiques que grâce à des politiques bien avisées, eh bien, nous sommes un pays qui peut produire suffisamment et exporter.
Sur des stands dressés en demi-cercle sur un espace à découvert, la créativité locale et richesse du Sud Kivu pointe aussi avec fierté. Bétail, animaux de basse-cour, manioc, fruits, bananes, légumes, légumineuses, pagnes, huile de palme et des produits manufacturés au niveau local se vendent dans une ambiance bon enfant avec des opportunités, des connexions. Jacqueline Ludungue de l'Association des femmes solidaires pour le développement intégré tient un stand.
Pour AFESDI, ça nous a permis de faire connaître l'artémisia, la plante qui guérit le paludisme et permettre aux autres de la cultiver. Mais aussi, nous produisons du savon au niveau d'AFESDI. Nous avons découvert des organisations qui fournissent les matières premières dont nous avons besoin pour la savonnerie. Avec ces partenaires, il y a lieu de faire de bonnes affaires.
Le gouverneur du Sud Kivu, Théongo Abidje, promet la réhabilitation des routes des dessertes agricoles et un soutien aux agriculteurs encadrés.
Je suis très heureux, comme nous avons fait la définition des priorités, nous allons travailler avec cette organisation, les CAB, pour appuyer le travail qui est fait par les différentes coopératives,
bien agriculture de subsistance pour une agriculture mécanisée. C'est notre vision et nous allons voir ceux qui sont dans les secteurs, on va les appuyer avec des petits crédits, des petites subventions pour qu'on quitte les petites productions et qu'on commence à produire à grande quantité. Ils ont aussi posé un problème de fiscalité, c'est un problème qui peut inspirer aujourd'hui. Nous ferons des allègements.
Occasion pour le comité pour l'autopromotion à la base, en collaboration avec APEF et GADS, de plaider pour l'amélioration du climat des affaires dans les secteurs agricoles, en favorisant des marchés intérieurs et surtout la souveraineté alimentaire. Outre la remise des prix aux meilleurs producteurs, cette 12e journée champêtre a tenu des conférences, débats sur des questions de développement ainsi que des projections des documentaires sur l'agriculture et échanges divers sur les défis de la production et la transformation agro-pastorale. Ernest Mouero Awalungu pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Au Cameroun, le gouvernement dénonce certaines agences humanitaires qui interviennent dans les deux régions anglophones en crise depuis octobre 2016. Le ministre de l'administration territoriale a accusé certaines d'entre elles, citation, de distiller des mensonges sur le Cameroun afin de susciter une intervention de la communauté internationale au Cameroun. Fin de citation. Qu'en est-il exactement depuis Yaoundé? Emmanuel Jules Ntap nous en parle.
Mesdames et messieurs les journalistes,
Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, est face à la presse. Quelques minutes de prise de parole et le ministre accable certaines agences humanitaires internationales opérant dans les deux régions anglophones en crise depuis 4 ans. Paul Atangandi.
Dans la région du sud-ouest, nos forces de défense et de sécurité ont interpellé une ambulance d'une agence humanitaire qui était censée transporter des déplacés. Mais ces déplacés étaient en réalité des dangereux terroristes activement recherchés par les services de sécurité. Dans cette ambulance, il y avait 3 Kalachnikovs. Et 2 caisses de munitions. Il n'y a pas longtemps, les forces de défense et de sécurité ont effectué un contrôle inopiné dans un convoi humanitaire d'un partenaire humanitaire. Paradoxalement, dans ce camion, il y avait 3 caisses de munitions, des paires de jumelles, des téléphones Android.
Le gouvernement accuse également les agences humanitaires de distiller 3 gros mensonges contre le Cameroun. Le ministre Paul Atangandi de l'administration territoriale.
D'après le comploteur, il y aurait environ 600 000 déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le Cameroun, à ce jour, n'a que 152 000 déplacés internes. Le gouvernement a évolué l'assistance aux déplacés internes à 12,7 milliards de francs CFA pendant 2 ans. Par contre, certains de nos partenaires humanitaires disaient qu'il nous fallait 36 milliards de francs CFA pour s'occuper des déplacés internes. Et certains de nos partenaires laissent croire auprès des instances internationales que la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest conduirait à une crise humanitaire au Cameroun.
L'avocat international Arbor Bala Kongo a été l'un des meneurs de revendication au début de la crise anglophone en 2016. Il dirige aujourd'hui le Centre des droits de l'homme pour la démocratie en Afrique qui mène des activités en zone anglophone. L'avocat Bala Kongo ne croit pas aux accusations du gouvernement contre les agences humanitaires.
We cannot dispute the fact that
nous ne pouvons pas nier le fait qu'il y a une crise humanitaire dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Dire également que le nombre des déplacés internes n'est pas donné avec exactitude par les agences humanitaires, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut prouver. Je ne pense pas que le problème est d'essayer de dire qu'il n'y a pas de crise humanitaire. Nous devons nous concentrer sur la recherche de la solution à la crise.
Les déclarations du gouvernement ont cependant fait naître au sein de l'opinion des suspicions sur les agences humanitaires opérant en zone anglophone. Mathieu est un jeune cadre du secteur privé à Yaoundé.
L'ONU n'a toujours pas bonne presse. Nous avons dans notre souvenir le cas par exemple de la Somalie, de la Côte d'Ivoire. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, il faudrait que ces autorités onusiennes-là et leurs agences coopèrent avec notre nation.
La coordination du système des Nations Unies au Cameroun n'a pas encore réagi aux déclarations du gouvernement camerounais. Yaoundé, Emmanuel Jontap, VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets. sans tabou. Politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console, Darrell Smith. Merci à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Irénée Herman-Rumbo à Washington. Bonne journée à toutes et à tous. À l'écoute de VOA Afrique, restez au cœur de l'actualité en visitant bien évidemment notre site internet www.voaafrique.com.